Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
À la Saint-Valentin, place Saint-Pierre, vendredi matin, c'est ce qu'ont fait quelques 20 000 fiancés à l'invitation du pape François, qui leur a rappelé qu'il ne suffit pas qu'un mariage dure pour qu'il soit réussi, encourageant tous ces jeunes à poser de vrais choix définitifs. Après le régime communiste, de nouveaux dangers comme le sécularisme ou le relativisme se présentent pour l'Église en République tchèque. Voilà ce qu'a affirmé le pape François aux évêques du pays en les recevant ce vendredi au Vatican. Après les Pays-Bas, la Belgique est donc devenue le deuxième pays au monde à autoriser sous de strictes conditions l'euthanasie pour les mineurs. Le père Tommy Scholtes, porte-parole des évêques de Belgique, fortement attristé par ce vote, nous expliquera une fois encore la position de l'Église belge. Nous parlerons aussi d'Haïti et d'un projet touristique sur un îlot paradisiaque qui n'enchante pas tout le monde, malgré la pauvreté endémique du pays. Vingt mille fiancés rassemblés donc ce vendredi matin place Saint-Pierre sous un très beau soleil à l'invitation du pape qui les a appelés à célébrer leur engagement dans le mariage à l'occasion de la Saint-Valentin. Le Conseil pontifical de la famille, qui avait proposé cette initiative inédite au pape, intitulée « La joie du oui pour toujours », a été surpris lui-même par la participation. Plus de 20 000 fiancés de 25 pays différents, même s'ils provenaient en majorité d'Italie, et puis un jour de semaine réunis donc place Saint-Pierre. À l'issue d'une messe et de témoignages, le pape les a rejoints et s'est adressé à eux. « Il ne suffit pas qu'un mariage dure pour qu'il soit réussi », a déclaré François. « Ce qui est important, c'est sa qualité. Être ensemble et savoir s'aimer pour toujours représente bien le défi des époux chrétiens. » Le pape a alors souligné combien les jeunes d'aujourd'hui avaient peur de faire des choix définitifs pour toute la vie. « Cela semble même impossible », a-t-il ajouté, « au point que cette mentalité porte ceux qui se préparent au mariage à penser « nous sommes ensemble tant que l'amour durera ». Mais qu'entendons-nous par le mot « amour » s'est interrogé le pape. « Seulement un sentiment ou un état psychologique ?» physique. Si ce n'est que cela, alors c'est clair qu'on ne peut rien construire de solide. 20 000 fiancés donc place Saint-Pierre et parmi eux quelques 150 couples venus de France. Écoutons le reportage d'Audrey Radondi.
Les fiancés ont été gâtés par une météo idéale pour une telle célébration. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Des ballons en forme de cœur flottaient à côté des drapeaux et parmi eux, il y avait celui de Maïlys et Paul, jeunes fiancés. Les parents de la future mariée ont offert ce voyage au couple pour fêter leur fiançailles.
Comme un père un peu appelle ses enfants, nous on est contents d'être là et de répondre présent. Et après, c'est vrai que c'est un temps très important, en fait, le temps de fiançailles. Le temps de réfléchir à des questions importantes, de remettre tout notre amour dans les bras de Dieu, de fonder vraiment notre mariage sur la foi chrétienne et sur tout l'enracinement de la tradition.
Et, voilà. Et les questions qu'ils se posent touchent tous les domaines.
Elles englobent toute notre humanité, donc c'est vrai que ça va être des questions qui touchent à la vie affective, intellectuelle, la vie morale, même notre engagement dans la société, la vie sexuelle, toutes ces questions-là qui sont posées et auxquelles l'Église apporte un enseignement vraiment clair.
On essaie de voir comment est-ce qu'on peut, à deux, la meilleure manière pour se rapprocher en plus et d'être des saints sur Terre. Peut-être en ayant des enfants si Dieu le veut, en montrant ce que représente l'amour humain, voilà.
À son arrivée, le pape a discuté avec trois couples. Le premier a interrogé le Saint-Père sur la peur du pour toujours.
Chers fiancés, le pour toujours n'est pas seulement une question de durée. On ne peut pas dire qu'un mariage est réussi seulement s'il dure. Le plus important, c'est sa qualité.
Albéric et Marie-Elvire sont fiancés depuis 3 ans. Ils se diront oui à la fin du mois d'août. Le pour toujours ne leur fait pas du tout peur.
Ouais, c'est beau.
C'est go, quoi. On y va, on se fait confiance et bien sûr que tout sera pas toujours parfait, mais c'est pas grave, c'est aussi la beauté de la vie, quoi.
Et comme l'a dit le pape François, l'amour, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une relation, quelque chose qui se construit et pour cela, il faut faire des concessions.
Bah, moi, je vais devoir supporter les comédies musicales.
Et, mais c'est ça qui est beau aussi, découvrir par l'altérité et les différences comment on peut s'enrichir l'un et l'autre.
Donc je vais apprendre à aimer les comédies musicales.
Voilà.
Pour la célébration du mariage, le pape a invité les futurs mariés à faire une vraie fête, une fête chrétienne et surtout pas mondaine. Albéric et Marie-Elvire espèrent qu'il y aura surtout une atmosphère de prière.
On espère que ce sera très priant et que tous ceux qui seront venus nous entourer, qu'ils soient chrétiens ou non, qu'ils puissent comprendre l'importance que ça a pour nous de s'engager à l'église. On espère que ce sera beau, qu'on y aura des beaux chants.
Et d'ailleurs, pour les accompagner ce jour-là, le pape a offert à tous les couples présents un coussin blanc orné de deux lacets pour nouer leur future alliance.
Cette célébration par le Vatican de la fête des amoureux, une fête laïque, rappelons-le, même si elle se réfère à un évêque et martyr du IIIe siècle, a été largement commentée, y compris au Vatican. Le succès de l'initiative démontre qu'il y a des jeunes, en tout cas à contre-courant, qui désirent que leur amour dure pour toujours, même si le monde contemporain ne croit pas que les liens durent. S'est félicité ainsi le président du Conseil pontifical pour la famille, l'italien Vincenzo Paglia. Le rassemblement est en tout cas dans le droit fil du message lancé à 2 millions de catholiques par François à la fin des Journées mondiales de la jeunesse à Rio en juillet dernier. Rappelons que le pape François consacrera à la famille traditionnelle un consistoire et deux synodes dans l'espace d'un peu plus d'un an. Après le régime communiste, de nouveaux dangers comme le sécularisme ou le relativisme se présentent pour l'Église en République tchèque. Voilà ce qu'a affirmé le pape François, évêque du pays, ce vendredi, dans un discours remis au prélat tchèque en visite à Limina au Vatican. Le pape a également tenu à rappeler l'importance de l'union et de la solidarité entre les membres du clergé et les fidèles. Marie Duhamel.
Le pape François a d'abord souligné l'oppression de l'Église tchèque par un régime fondé sur une idéologie contraire à la dignité et à la liberté humaine, en référence au régime communiste qui a dirigé le pays à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1989. Aujourd'hui, a-t-il poursuivi, vous devez faire face à d'autres dangers qui sont par exemple le sécularisme, le relativisme, car la République tchèque est souvent présentée comme le pays européen au plus grand pourcentage d'athées. Pour y faire face, le pape a rappelé l'importance fondamentale de l'union et de la solidarité entre les évêques, notamment pour favoriser les relations avec les autorités civiles. Cette union doit devenir une synergie entre le clergé, les religieux et les fidèles laïcs, a souligné le pape qui a appelé les évêques à une ouverture vigilante et courageuse aux fidèles afin qu'ils exercent le charisme de l'Esprit-Saint. Cela pour faire face aux défis contemporains et aux nouvelles urgences pastorales. Le pape est également revenu sur la pastorale de la famille, assurant que la famille était l'élément porteur de la vie sociale. Il a également demandé au prélat tchèque de réaliser un programme pastoral enrichissant pour favoriser la confiance et la sérénité. Le pontife a abordé la question de la préparation au sacrement, mais aussi de la pastorale de la vocation, notamment à l'intention des jeunes, pour encourager leur recherche du sens et du don de Dieu.
Malgré l'opposition d'un certain nombre de pédiatres et de l'Église catholique de Belgique qui avait organisé ces derniers jours des veillées de prière dans plusieurs villes, les députés belges ont décidé jeudi que les enfants atteints d'une maladie incurable pourraient désormais choisir l'euthanasie pour abréger leur souffrance. Le débat parlementaire a été houleux, mais les députés belges ont définitivement adopté ce texte qui ne fixe pas d'âge minimum, et cela 12 ans après avoir autorisé l'euthanasie pour les adultes. La loi, déjà votée en décembre par le Sénat, a été approuvée par les députés à une majorité de 86 pour, 44 contre et 12 abstentions. Elle entrera en vigueur dans les prochaines semaines. Après les Pays-Bas, la Belgique est le deuxième pays au monde à autoriser sous de strictes conditions l'euthanasie pour les mineurs. Le père Tommy Scholtes, porte-parole des évêques de Belgique, explique la position de l'Église belge au micro de Cyprien Viette.
Les évêques ont d'abord envie d'exprimer leur solidarité avec toutes les personnes qui ont eu le courage de dire leur opinion sans aucune ambiguïté. Bon, les évêques ne sont pas dans la capacité directe de faire une action, si ce n'est de réagir vigoureusement, et ils le font par les communiqués qui sortent de mon ordinateur et avec la signature des évêques, puisque cet après-midi, tous les évêques ont vu les textes et les ont adaptés en fonction de la situation. Et donc, voilà, il y a une réaction forte, avec un très grand regret, et il y a surtout aussi une crainte que ceci ne soit en fait qu'une étape et qu'il y ait encore d'autres possibilités qui pourraient être extrêmement délicates aussi, et peut-être encore plus délicates si on peut aller dans l'aggravation de la situation avec une extension aux personnes handicapées, aux personnes démentes, aux personnes malades mentales. Et oui, il y a des choses qui sont extrêmement graves, il y a une pente qui est extrêmement dangereuse, mais voilà, nous prenons acte, mais nous n'acceptons pas, évidemment.
Est-ce que l'observation de ce mouvement de libéralisation qui s'est vécu aussi chez vos voisins néerlandais, je crois, est-ce que vous l'observez avec inquiétude? Est-ce que vous en parlez aussi avec les évêques des Pays-Bas de la manière dont on peut réagir face à ces évolutions sociétales?
Il y a eu effectivement, il y a quelques semaines, une réunion entre les évêques belges flamands et les évêques néerlandais, et cette chose est effectivement venue sur la table, tout en disant que, manifestement, il y avait une espèce d'opinion publique qui confondait un peu tout, et c'est un peu la même chose en Flandre qu'aux Pays-Bas. D'abord, il y a une espèce de suprématie de la raison et de l'individualisme qui fait que j'ai le droit de disposer de ma vie. C'est l'opinion exprimée le plus souvent, avec une espèce de grande peur de la souffrance et alors des espèces de confusion entre calmer, apaiser une souffrance et à un moment donné choisir pour l'euthanasie, alors que c'est évidemment pas la même chose. Et il y a une espèce de courant qui existe aujourd'hui de croire que l'Église ne veut pas l'euthanasie parce que elle glorifie la souffrance, ce qui n'est évidemment plus le cas. Ça a peut-être été un peu comme ça dans l'histoire, mais de grâce, les évêques de Belgique l'ont dit plusieurs fois ces derniers mois, il faut absolument qu'on arrête la souffrance, qu'on apaise la souffrance. Il faut aussi arrêter l'acharnement thérapeutique. Ce sont des choses qui sont extrêmement claires au niveau de la morale catholique. Et il faut pouvoir apaiser au maximum. C'est le message des évêques de Belgique et de dizaines de médecins et pédiatres, en l'occurrence ici. Et nous ne cesserons de le redire. Mais il y a une opinion publique qui est de plus en plus pour dire... s'il vous plaît, ne nous laissez pas souffrir, ce qui est aussi notre expression catholique. Nous ne souhaitons pas que quelqu'un souffre. Nous serons aussi les prochains morts quand même. Il y a personne qui échappe à la fin de vie. Donc, on parle tous dans le même sens. Et je pense que les gens ont vraiment peur de souffrir et aussi de dire qu'à un moment donné, ça suffit.
Est-ce que, vu de Rome, on a l'impression que la Belgique, peut-être aussi comme d'autres pays, comme l'Espagne, souffre du développement d'une certaine catophobie? On a l'impression qu'il y a une incompréhension d'une très 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 large part de l'opinion publique par rapport à la doctrine chrétienne. Comment vous le ressentez, vous, sur place?
Mais oui, je crois que c'est vrai qu'il y a eu un espèce de phénomène de sécularisation, comme on dit souvent ici, qui relègue un petit peu les questions religieuses dans le secteur de la vie privée, que la vie publique n'a pas le droit d'être marquée par les valeurs religieuses, alors qu'il n'en est rien, évidemment, de notre point de vue. C'est pour ça que les évêques de Belgique n'ont cessé, ces dernières semaines en particulier, de susciter, d'éveiller, de susciter des pétitions à travers différentes initiatives. Il y a peut-être historiquement une période extrêmement forte où l'Église était non seulement porteuse de valeurs morales, mais peut-être aussi très très forte au niveau d'un certain nombre de lieux d'influence. Et il y a un peu, je pense, un espèce de pendule qui revient dans l'autre sens en disant « mais aujourd'hui les choses sont différentes ». Et des gens qui ont peut-être vécu à un moment donné une certaine pression de la part de l'Église, aujourd'hui ont envie de dire « nous sommes capables de décider par nous-mêmes ». Et c'est la grande difficulté de l'Église d'aujourd'hui d'être vraiment présente dans le débat de la société de manière moderne, mais en étant sûre de ce que nous avançons avec la valeur de ce que nous apportons comme principe de vie dans le domaine de la morale, qui est de dire que la vie, on la reçoit, la vie, on la vit avec sérénité. Et s'il y a de la souffrance, eh bien, il faut essayer de l'apaiser. Mais ça ne veut pas dire autre chose. Et on a vraiment du mal à accepter cette manière d'être aujourd'hui, c'est vrai.
Peut-être une dernière question. Est-ce que les médecins catholiques impliqués dans ces décisions, est-ce que les aumôniers aussi dans les hôpitaux pourront avoir une sorte d'objection de conscience? Est-ce qu'ils auront une marge de manœuvre pour dissuader éventuellement les familles de demander ce geste fatal?
Alors d'abord, il faut savoir que le geste fatal dont on parle, c'est-à-dire l'euthanasie d'enfants, est quelque chose qui, en Hollande, a été utilisé, si je puis me permettre l'expression, 5 fois en 12 ans. Et donc, c'est une des premières réactions qu'on a dites, c'est cette loi n'est pas nécessaire. Donc, ce qui montre aussi que cette loi est plutôt idéologique qu'autre chose. Deuxièmement, il y a un droit de conscience, objection de conscience. Ça fait partie de leurs armes, de leurs arguments, de dire, mais personne n'est obligé de pratiquer l'euthanasie. Et on ne vous obligera jamais, on ne vous demandera jamais de pratiquer l'euthanasie, ce qui n'est qu'à moitié sûr, et j'ai des raisons de croire qu'il y a des grands dangers dans certaines situations. Mais clairement, il y a une objection de conscience pour les médecins, pour tous ceux qui sont intervenants, entre guillemets, autour de l'euthanasie, et il est clair que les aumôniers accompagneront la réflexion, mais il est probable aussi que les personnes qui sont dans cette réflexion ne vont pas d'abord en parler aux aumôniers. Mais je peux dire que certains aumôniers que je connais très bien sont associés à ce genre de discussion quand des questions se posent dans un hôpital.
Et l'archevêque de Malines-Bruxelles, Mgr Léonard, a voulu attirer l'attention des consciences sur les dangers liés à cette loi. Nous savons qu'il y a d'autres projets qui sont en cours de préparation pour d'autres extensions, notamment aux personnes démentes, à condition qu'elles aient fait une demande anticipée, a-t-il ainsi déclaré à plusieurs reprises ces derniers jours. L'Église catholique haïtienne, qui parrainait depuis 2 semaines un dialogue réunissant partis politiques, parlementaires et membres du gouvernement, a annoncé mercredi qu'un accord avait été trouvé entre les protagonistes afin d'organiser des élections législatives et municipales au cours de cette année en Haïti. Aucune date n'a été toutefois retenue pour la tenue des élections et 3 influents partis politiques de l'opposition, dont celui de l'ex-président Aristide, n'ont pas approuvé les accords. Alors que le pays n'en finit donc pas de se chercher dans une misère sans fin, l'île à vaches, petit bout de terre haïtien connu pour ses plages de sable fin, va-t-elle devenir une destination touristique de luxe? C'est en tout cas le souhait du président haïtien Michel Martelly. Pour y arriver, des hôtels, des magasins, un aéroport ou encore de nouvelles routes vont être construits sur l'îlot paradisiaque. Face à un tel projet, les habitants se posent beaucoup de questions. Plus d'un millier ont entamé début février leur 3e mouvement de protestation pour arrêter tout simplement les travaux. Mi-janvier, ils avaient demandé à la ministre du Tourisme de les suspendre, le temps pour eux de s'informer. La sœur franciscaine Flora Blanchette était à ce rendez-vous avec la ministre. Originaire du Québec, elle est arrivée en Haïti il y a 37 ans désormais. En 81, elle a fondé sur cette île à vaches l'œuvre Saint-François, un orphelinat où elle accueille des orphelins, donc des enfants handicapés ou malades. Elle aussi a été surprise quand elle a entendu parler de ce projet.
L'île à vaches était d'une façon isolée. Moi, je suis là depuis en 81 et puis on n'avait pas tellement de va-et-vient sur l'île. On était un peu comme abandonnés. Tout d'un coup, bon, il y a eu des personnes qui ont commencé à venir, des étrangers. Mais là, on a entendu parler, je dis on a entendu parler parce que on ne comprenait pas trop, ni moi, ni les gens, parce qu'il y a eu un développement qui a commencé d'une façon précipitée. Alors, ce qui a fait les réactions d'une façon négative, c'est parce que les gens ne savaient rien et tout d'un coup, ils ont entendu parler que l'île à vaches n'appartenait pas aux gens qui sont ici. Ils ont des terres depuis plusieurs années. Alors là, tout d'un coup, ils ont fait une route, mais les gens n'ont pas été dédommagés. Alors là, il commence à y avoir une grosse réaction et je les comprends. J'espérais que s'il y a un développement, il faudrait qu'il soit aussi pour les pauvres, pour les gens qui sont démunis, les gens qui sont dans le commerce, dans les petites marchandes, pour que ils puissent payer l'école, payer ce qu'ils ont à payer. Ils aient eux-mêmes une certaine autonomie. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il y aura un développement pour les pauvres comme pour les autres?
Ce qui vous inquiète, c'est que ce projet, au final, ne puisse bénéficier qu'aux touristes et qu'au final, vous, les habitants, vous soyez mis de côté et oubliés.
Vu qu'on n'a pas été mis au courant du projet en détail, c'est tout d'un coup que nous voyons qu'une route s'est faite. Et elle est presque impraticable quand il y a de la pluie, parce que c'est comme si c'est une route qui n'est pas terminée. Et il y a des moyens de locomotion qui ne sont même pas à notre niveau. Et puis, on ne sait pas comment ça va tourner, parce que on n'a pas l'impression, de toute façon, que ça nous correspond. On n'a même pas la capacité de payer les employés. On est obligé de quitter pour payer les employés. Même la cantine, les enfants n'ont plus de cantine à l'école. Donc, vous voyez, on a un recul. Et puis, là, on entend parler de développement, ça pose question.
Vous êtes inquiète pour l'avenir?
Eh bien, moi, je m'inquiète pas trop dans le sens que je me dis qu'on a passé par bien des choses dans la vie en Haïti et puis il faut vivre la situation, mais il faut comprendre les gens. S'ils ne réagissent, eh bien, c'est avec raison, parce qu'ils sont inquiets. Ils se demandent aussi jusqu'à quel point ils vont bénéficier, puisqu'ils n'ont pas été dédommagés pour ce qui a été brisé, et ils ne sont pas trop au courant des détails non plus. Tout est mystère un peu. On sent qu'il y a un mystère dans l'air.
Et au début du mois de mars, un collectif d'habitants va demander un nouveau rendez-vous avec la ministre du Tourisme pour poursuivre donc les discussions sur ce projet touristique gouvernemental. Ainsi prend fin ce magazine. Retrouvez-nous sur le site internet www.radiovaticana.va et sur Facebook à Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain où que vous soyez.